Ce balado est un contenu publicitaire payé par Desjardins.
Pas dans les voiles, c'est pas un projet de boulangerie, c'est un projet d'humain. Puis une des choses qu'on avait décidé de faire, c'était de centraliser toute la production des croissants, des chocolatines, toutes les viennoiseries, on les a produites dans un local, puis c'est ce local-là qui est passé au feu. Il y avait 150 pompiers, 5 camions échelles, ça a brûlé pendant une journée et demie. L'immeuble est par total. Du jour au lendemain, ben, du partout. Ça a vraiment été fou, en fait. Tout le monde a mis l'épaule à la roue. On a loué un nouveau local, puis on s'est littéralement pointé avec des Sharpies, puis on a écrit par terre où est-ce qu'on mettait les congélateurs, les frigos puis les pétrins. On a dit « let's go ». Électricien, frigoriste, rentrez, puis on y va. Liste opérationnelle un mois et demi plus tard. T'sais. Un mois et demi après un feu, on est opérationnel dans un nouveau local de 6000 pieds carrés. C'est fou comment les crises, c'est fédérateur. T'sais? Puis il y a une espèce de mode où est-ce que tout est possible, on repousse les limites. Les irritants du quotidien sont plus là, puis c'est juste on travaille ensemble, puis on fonce.
Je m'appelle Laurent Duvernay-Tardif. Puis à l'invitation de Desjardins, j'ai demandé à des gens de partout au Québec qu'est-ce que ça veut dire pour eux être ambitieux. Parce que le mot ambition n'a pas toujours une connotation positive. Puis on a une relation bien particulière avec ça. On veut réussir, on veut du succès, mais on veut surtout pas avoir l'air de s'en vanter. Bref, je me suis dit qu'on était dû pour plonger ensemble au cœur de l'ambition. Dans les épisodes précédents, on a vu que l'ambition, c'est souvent influencé par des facteurs extérieurs, comme notre éducation, notre famille. Mais parfois, ça peut naître aussi dans des moments plus difficiles. Tu sais, les fameux moments où est-ce qu'on a l'impression que la vie te lance une balle courbe. C'est ça que je veux creuser aujourd'hui. C'est quand ça va mal, qu'est-ce qui pousse les gens à continuer? C'est quoi ce réservoir-là dans lequel on va puiser notre énergie pour avancer malgré tout? Prenez l'exemple du marathonien Xavier Barrette. En 2018, Xavier fait un ACV. Il se réveille à 5 jours d'un demi-Ironman au Mont-Tremblant, puis il est juste plus capable de parler. Pas le genre de choses qui te donne envie d'enfiler tes espadrilles, mais Xavier, lui, il décide de transformer ça en motivation, en carburant. Puis il décide de continuer à courir parce que pour lui, l'ambition, c'était pas juste la performance, mais c'était une manière de vivre puis de se pousser à pas abandonner, même quand il faut tout recommencer à zéro.
Si j'avais été peut-être un peu moins chanceux, je serais probablement pas en mesure de parler adéquatement. Là, peut-être qu'il y aurait du monde qui dise que je parle encore mal, mais ça, c'est une autre histoire. Ou soit carrément de plus être en mesure de me déplacer sur mes deux jambes ou être carrément en chaise roulante. Le fait de se dire que je suis en mesure de, un, être en santé, mais en plus de faire ces exploits-là, mais ces courses-là, quand j'ai un petit down en plein milieu d'une course après 3 jours, ben là, je me dis, j'ai la chance de faire ça, tu sais, je suis capable d'aller jusqu'au bout. Tu fais 5 kilos, tu te dis, ah, ben, je vais essayer de faire un 10. Tu fais un 10, tu vas essayer de faire un 21, tu vas faire un 42. Bon, tu te rends compte qu'après 42, ben, il y a un 65, exemple à Arcana. Après ça, il y a un 80, exemple à Bromont. Puis là, tu te dis, ben, existe-tu d'autres choses? Puis là, tu te rends compte que oui, il y a des 200 miles, puis il y a aussi des 240 miles. Fait que là, sur un coup de test, tu t'inscris à un 240 miles. Puis, étonnamment, ça passe, puis tu réussis. Fait que là, tu te dis, ben, c'est où la limite? Qu'est-ce qui me donne la force de continuer là, quand souvent on dit quand on est dans le dur là, en course? Ben c'est si tu te rappelles, je pense que c'est comme tu as l'opportunité, tu as la chance d'être là, première chose. Tu penses à tous les efforts que tu as mis en amont. Là, on parle de plusieurs heures d'entraînement. Bon, il y a le côté monétaire aussi. Quand tu as mis quasiment 10 000 sur une course, tu vas pas abandonner quand il te reste 12 heures, là, mettons. T'sais, moi, quand je pars, c'est un certain sens, c'est une mission, puis je vois pas pourquoi, à moins qu'il y ait vraiment... T'es hors des délais, t'es vraiment blessé, puis que là, la blessure pourrait t'hypothéquer dans le temps. Il n'y a pas de raison d'abandonner.
Pour vrai, moi, d'entendre ça, ça me donne des frissons, parce que s'il y a quelqu'un qui mérite sa photo à côté du mot « résilience » dans le dictionnaire, ben c'est Xavier.
Ah, enchanté.
Gabriel, allô. Vous allez ici. Ben, Laurent, t'as sûrement pas de misère, mais il y a 4 étages à monter.
Ah, quand même, hein?
Ouais, okay. C'est un peu intense.
Donc, maintenant, on s'en va rencontrer l'artiste Gabriel Laila Titley, alias Pony. Puis, il y a de bonnes chances que vous avez déjà vu ses illustrations sur une affiche ou un morceau de vêtement. D'ailleurs, il y a une des illustrations que j'ai vues dans son atelier que j'aime beaucoup. Puis, ça représente une maison en train de brûler. Puis, juste au-dessus, c'est écrit Club Optimis en lettres ballon. Ça donne une bonne idée de l'univers de Pony parce qu'elle est capable de faire du beau et du drôle, même à travers les difficultés.
C'est moi, je viens d'un milieu comme plutôt défavorisé. Ben pas plutôt, comme très défavorisé. Fait que pour moi, de commencer à cheminer dans un monde d'art visuel où finalement les seules personnes, tu sais, de faire une œuvre d'art pour une seule personne qui peut en profiter, qui peut se payer cette toile-là parce qu'une toile, ça, c'est pas donné, m'a juste tranquillement amené à me questionner par rapport à la démocratisation de l'art. Puis j'ai juste voulu ouvrir un petit peu plus mon monde, ouvrir les gens à qui ça s'adresse. Fait que j'ai juste commencé à faire des reproductions de mes toiles. C'était genre qu'on se rejoint au parc Laurier, ils me donnent 10 piastres, je te donne genre une photo de la toile, c'était ça. Puis ça a juste commencé à être plus accessible. J'ai vu à ce moment-là que ça commençait à fonctionner. Moi, je pouvais commencer à payer mon loyer de cette façon-là, tu sais. Ça faisait juste plus de sens.
Est-ce que tu sens que ton ambition, elle a changé?
Je pense qu'elle a toujours été comme ultra présente, mon ambition. Mais je pense qu'au début, c'était plus une question de survie, de comme sortir du milieu dans lequel j'étais, de sortir de cet environnement-là qui était comme très toxique puis difficile. Puis c'était vraiment une question de... Ouais, de vivre, là, de comme trouver une raison de vivre, là, littéralement. Là, ça me donnait vraiment comme une raison de m'explorer mon monde intérieur, de l'exprimer, puis ça a créé des connexions avec d'autres personnes. Ça m'a vraiment donné comme le goût de continuer à vivre. Maintenant, l'ambition, c'est le bonheur de sentir que quand quelqu'un se retrouve dans une œuvre que tu fais, de savoir que la personne se sent pas seule ou plus seule ou qu'elle se sente comprise d'une toute petite façon, là, c'est comme le meilleur feeling du monde. C'est ça le propulseur pour moi, honnêtement. Là.
Je trouve ça fascinant d'entendre Pony nous dire comment son rapport à l'ambition a évolué dans le temps. Au départ, c'était comme une question de survie, puis elle créait pour elle. Puis aujourd'hui, bien, il y a des milliers de personnes qui se reconnaissent dans ce qu'elle fait. Refuser d'abandonner, bien, c'est aussi ce qui motive Catherine Dubois. Elle est joueuse de hockey pour la Victoire de Montréal dans la Ligue professionnelle de hockey féminin. Puis pour Catherine puis plein d'autres femmes, la route a été longue vers la reconnaissance puis la professionnalisation dans leur sport.
Tu sais, je vais être honnête, c'est sûr que ça a été difficile. Je pouvais pas juste jouer au hockey, il fallait que je fasse tellement plus de choses, tellement plus d'efforts pour pouvoir continuer à jouer au hockey. Fait que c'est sûr qu'il y a eu des moments que j'étais frustrée. J'étais comme, tu sais, si j'avais été un homme, peut-être que j'aurais pu juste jouer au hockey, tu sais. Des moments que c'était tellement démotivant. Tu sais, il fallait que j'aille travailler sur des chantiers l'été, puis c'était tellement dur. C'était ma seule opportunité parce que qui voudrait embaucher quelqu'un, il faut le temps qu'il parte.
De tes 3 années dans le sport professionnel, qu'est-ce qui te rend le plus fier?
Je pense que c'est vraiment ma résilience, puis émotionnellement aussi, c'est la gestion de mes émotions. Parce que, tu sais, quand on joue amateur, puis tout ça, on s'impose une pression, mais c'est pas l'extérieur qui nous l'impose. C'est toi qui, comme moi, je veux réussir. Mais quand tu es rendu professionnel, il y a aussi un aspect de pression de plus. T'sais. Tu veux bien paraître, tu veux bien faire, tu veux montrer que tu mérites le salaire que tu as, tu veux montrer que tu as ta place. Et c'est beaucoup de gestion d'émotions. Puis, moi, je suis quelqu'un de vraiment sensible, tout ça. Fait que d'apprendre à dealer avec ces émotions-là, c'est quelque chose que je suis vraiment fière parce que c'est pas vrai que c'est super facile de jouer professionnellement. T'sais. Tu veux bien faire, tu sais. Je veux dire, je veux que les gens ils soient inspirés par qu'est-ce que moi je fais, parce que qu'est-ce que nous on fait, tu sais. Fait que c'est comme une autre pression qui est en même temps une motivation. Je pense que de jouer avec cette adrénaline-là, des fois, ça te permet de faire des choses encore plus grandes que qu'est-ce que tu ferais normalement.
D'un point de vue de comme le mouvement qui se passe en ce moment par rapport au sport féminin, tu sais, qu'est-ce qui te rend le plus fier que le hockey se soit professionnalisé comme il l'a fait depuis 3 ans?
Honnêtement, c'est le support des gens. Il y a beaucoup de gens qui me disent que, tu sais, quand il y a nos matchs, tout ça, ils se ressemblent tous à une place, puis que peu importe leur différence, tout ça, ils sont d'accord que ça, c'est un moment qu'on célèbre, puis c'est un moment qu'on est fiers de voir, tu sais. C'est beau de voir qu'une société peut se rassembler autour d'un événement comme ça, puis c'est beau de voir que ça fait un impact non seulement sur les femmes, mais sur les hommes, sur les petits garçons, sur les petites filles, tu sais. C'est juste du hockey, mais c'est tellement plus grand que ça quand tu regardes à l'extérieur et tu vois toutes les gens qui sont avec nous, derrière nous, puis qui sont là aussi ensemble.
Cette ambition-là, elle vient de où?
Je pense que c'est juste vraiment la passion. Puis je me disais tout le temps, OK, une année de plus, une année de plus, une année de plus. Puis on espérait pouvoir vivre de ça. Tu sais, c'était comme plus un rêve qui était comme, ah, si je peux jouer une année de plus, peut-être.
T'as joué au hockey combien d'années de ta vie?
Oh mon Dieu, j'ai 25 ans.
Puis combien de ces années-là ont été dans un niveau professionnel?
3. Fait que c'était vraiment juste la motivation, de la passion, puis beaucoup de support. T'sais, moi, mes parents m'ont permis d'avoir ce temps-là à 27 ans, normalement, et peut-être que ça serait bien de commencer une job plus stable. Puis j'avais tant le support de mes parents qui étaient là, non, c'est correct, continue notre année. Puis je pense que c'est la seule raison pourquoi que je suis là aujourd'hui, en fait. Là.
C'est vraiment fou l'impact que les autres peuvent avoir dans notre vie. Puis Catherine, elle dit elle-même, si c'était pas du soutien de ses parents qui l'ont encouragée à persévérer, bien, elle serait peut-être pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Puis évidemment, bien, sa passion et son talent ont joué pour beaucoup, mais des fois, juste de se faire dire « lâche pas », ça fait toute la différence. Puis c'est d'ailleurs quelque chose qui ressort beaucoup dans ma prochaine conversation avec Gestion Jeunesse, un organisme qui aide les jeunes en difficulté scolaire à trouver une ligne directrice à leurs ambitions. On a rencontré Ariane et Océane, deux jeunes ambitieuses de 16 ans, puis Marie-Louise, conseillère en emploi, qui les accompagne dans leur parcours.
Ben moi, c'était plus mentalement que c'était difficile parce que je suis dyscalculée, dyslexique, dysorthographique, dyspraxie. Les autres, eux, c'était ligne droite, ils savaient où aller, mais moi, non, j'étais perdue là-dedans.
Ben moi, c'est juste que je fais beaucoup d'anxiété sociale, puis je comprends pas les jeunes de nos jours. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais à l'école, c'était trop pour moi d'être avec des gens qui me comprennent pas. Fait que j'ai décidé de quitter l'école. Puis d'aller voir Gestion Jeunesse.
C'est des jeunes qui ont été très, très blessés par l'adulte au niveau scolaire, au niveau de la vie de famille. Donc, quand ils arrivent ici, ils sont méfiants. On réussit avec notre bienveillance à aller les chercher pour leur donner cette confiance-là, à nous suivre là-dedans, pour réussir à dire, bien, ça se peut que j'ai des enjeux, mais de faire confiance à l'adulte qui va me donner une chance. Fait que c'est vraiment par cette philosophie-là qu'on arrive, soit par l'emploi ou des stages, même des ateliers préparatoires. Mais le but, c'est que ça soit personnalisé à chaque jeune pour ne pas se sentir un numéro.
Ils vont essayer de comprendre pour commencer. Ils vont poser des questions. Ils vont t'accueillir comme vraiment c'est comme une reine. Tu évolues comme tu le sens. Il n'y a aucune pression. C'est vraiment c'est parfait.
Tu peux être en post-scolaire, paumé entre deux directions, quand même avoir des rêves plus grands que la galaxie. L'ambition, c'est pas une ligne avec un diplôme au bout. C'est un feu intérieur, un truc qui brûle même quand tu sens figé tout autour de toi. Faut juste que tu oses lever les yeux et prendre le large.
Tout est possible. C'est prends son rêve puis projette-le. Il va avoir des connexions.
Puis ça m'a comme aidé à trouver des nouvelles passions aussi. J'ai travaillé avec des personnes qui sont en difficulté mentale, puis j'ai adoré.
Moi, mon rêve plus tard, ça serait devenir chef mécanique dans la F1, parce que j'adore tout ce qui est course automobile. Je les suis tout le temps, comme la dernière course qu'il y a eu, le Grand Prix au Japon. Mon coureur préféré, Max Verstappen, s'est classé premier. Et ça m'a fait chaud au cœur. Et cette personne, Max Verstappen, c'est un modèle pour moi. Genre, lui, il se faisait huer à chaque course. Et lui, il a montré qu'il pouvait aller chercher la victoire, même si tout le monde ne l'aimait pas.
Je me dis, j'aurais aimé avoir ce courage-là quand j'étais jeune. On avait des parcours très ligne droite, là, mais pas eux autres. Je pense que c'est beau. Puis je pense que ça va faire des adultes beaucoup plus... plus fignolés, plus ils vont avoir vécu plus que peut-être moi, là, 40 ans.
On veut quand même avancer, c'est juste qu'on a de la difficulté à savoir comment ou à comprendre pourquoi il faudra avancer. Ça arrive des fois.
Moi, de mon point de vue de gestion jeunesse, c'est qu'ils m'ont rappelé que j'étais pas brisée, juste en train de me construire.
Moi, je souhaite juste que gestion fasse encore longtemps. Parce que je la vois, la différence.
Moi, j'ai vraiment été touché par les conversations d'aujourd'hui parce que je me suis rendu compte que des fois, de passer à travers un moment d'adversité, ça donne encore plus de sens à nos objectifs. on focus moins sur la performance puis plus sur la ligne directrice de notre ambition. Puis si on l'utilise comme un moteur, on est capable d'accomplir des grandes choses. Comme l'a si bien dit Océane de Gestion Jeunesse, elle m'a même fait verser une petite larme. L'ambition, c'est un feu intérieur, un truc qui brûle même quand tu sens que tout est figé autour de toi. Non mais pour vrai, c'est-tu pas beau ça? Dans le prochain épisode, j'ai eu envie de réfléchir à une question qui me tiraille vraiment. L'ambition, c'est un moteur puissant, mais c'est aussi souvent tourné vers soi. Je cherche à me dépasser, je veux repousser mes limites, je veux battre un record, je veux être meilleur. Est-ce qu'on peut mettre notre ambition au service des autres? Est-ce que c'est possible d'avoir une ambition altruiste? C'est ce qu'on va découvrir ensemble bientôt au cœur de l'ambition.